Voilà, bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Et nous allons sans plus tarder donc ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais aujourd'hui parler avec vous de la providence divine. J'avais à cœur de pouvoir prendre ce thème et le survoler encore ce matin avec vous. Alors c'est vrai qu'il n'existe pas dans la Bible de mot spécial pour exprimer l'idée de providence divine. Étymologiquement, le mot « providence » signifie « prévoyance », c'est-à-dire avoir cette faculté de prévenir, d'anticiper les choses, les événements à l'avance. Et sur le plan théologique, le mot « providence » désigne le fait que Dieu, qui est le maître et le souverain sur tout l'univers, bien dirige et contrôle toutes choses en vue d'accomplir ses desseins glorieux. Ainsi, la providence divine, c'est la suprême sagesse avec laquelle Dieu gouverne l'univers entier. En effet, Dieu soutient toutes choses, il gouverne tous les événements dans l'univers, il dirige toutes choses selon un but bien arrêté, bien précis, un but, j'ai envie de dire, prédéterminé, et il le fait toujours pour sa propre gloire. Alors la providence divine est en fait quelque part un aspect de la souveraineté de Dieu. Et permettez-moi juste de vous citer quelques passages parmi tant d'autres, démontrant quelque part le règne souverain de Dieu sur toute chose. Un premier verset, par exemple, et je les prends pêle-mêle comme cela, Romains chapitre 11 et le verset 36, il nous est dit la chose suivante, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Autre passage, Lamentations, chapitre 3, verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée. Encore un autre passage, Ésaïe, chapitre 45, le verset 7, je forme la lumière, dit Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Il y a des versets comme cela qui nous laissent sans voix, montrant véritablement la souveraineté de notre Dieu. Un autre texte, psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Pourtant, parallèlement à tous ces versets qu'on vient de citer, il faut quand même se rappeler que Dieu néanmoins va laisser l'homme libre, libre de ses choix, libre de ses actes. Car voyez-vous, la providence divine, elle exclut toute forme de fatalisme, toute idée de destin ou même de hasard. Quelqu'un a dit d'ailleurs que le hasard est la main invisible de Dieu. Et pourquoi pas? Mais en fait, la providence divine, c'est elle qui est la main visible de Dieu. Alors vous le comprenez bien, la providence divine est certes un vaste sujet qui présente des zones mystérieuses et même difficiles à comprendre pour notre intelligence limitée. Et c'est pourquoi, juste aujourd'hui, je voudrais répondre à une question. Et quelle est cette question? C'est la suivante. Comment la providence divine s'exerce-t-elle en faveur des enfants de Dieu? Elle est simple, la question. Et je voudrais y répondre aussi simplement en vous montrant de manière, de façon, au travers duquel la providence de Dieu se manifeste en faveur de ses enfants. Premièrement, en pourvoyant à tous leurs besoins. C'est un premier point que nous verrons ensemble. Et puis un deuxième point, en faisant concourir toutes choses à leur bien. Alors regardons par des exemples concrets, bien sûr tirés de la Bible, eh bien ce premier point, la providence de Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui lui appartiennent. Il y a un passage qu'on a besoin peut-être de relire assez souvent, c'est dans Philippiens chapitre 4 et le verset 19. Et la Bible nous déclare la chose suivante par la bouche de l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 4 et le verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mes amis, faut-il rappeler à notre entendement que Dieu est à la fois omniscient, omnipotent, que dire encore omniprésent, et parce qu'il est aussi un Dieu d'amour, Dieu se plaît à pourvoir aux besoins de ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça, quelque part, David a fait une déclaration formelle qu'il a observée tout le long de sa propre vie, mais aussi dans celle de ceux et de celles qui craignent Dieu. Psaume chapitre 37, le verset 25, nous dit la déclaration formelle de notre ami David. Psaume 37, verset 25, je vous lis ce passage dans la version Semeur. Il nous est dit la chose suivante. « J'étais un enfant et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Mes amis, c'est sûr et certain. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Car voyez-vous, tel un père est plus qu'un père terrestre. Dieu, notre Père céleste, pourvoira toujours aux besoins de ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça qu'il est dit autre part dans Romains chapitre 8 et le verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Alors, bien sûr, pour illustrer mes propos, j'ai relevé pour nous plusieurs exemples. Le premier exemple que j'ai noté, c'est celui du prophète Élie. Élie qui, à un moment donné, pria Dieu et demanda à ce que la pluie s'arrête. Et ce même Élie, ce même prophète, fut nourri miraculeusement, nous dit la Bible, par des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande chaque matin et chaque soir, et ceci pendant plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Et Élie s'abreuvait au torrent de Kérit, nous dit la Bible. Vous relirez ce passage dans 1 Roi, chapitre 17 et le verset 6. C'est la providence de Dieu qui a dépêché ces coursiers un peu spéciaux auprès de notre ami Élie. J'aurais voulu voir, et ça c'est un autre exemple, la tête de Pierre quand Jésus lui a dit d'aller récupérer dans la bouche du premier poisson qu'il pêcherait dans le lac de Galilée, l'argent qui allait servir à payer l'impôt du temple pour lui et Jésus. On lit cette affaire dans Matthieu chapitre 17 et le verset 27. Jésus qui commande donc à Pierre et lui dit « Va à la mer ». Quand on parle de la mer, on parle ici du lac de Galilée, tellement ce lac est immense. On avait tendance à le comparer à une mer. « Va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. » Je rappelle qu'un stater est égal à 4 drachmes et l'impôt du temple correspondait à 2 drachmes. C'est pour ça qu'il y avait de quoi subvenir donc pour Pierre, mais aussi pour le Seigneur Jésus. Vous voyez jusqu'où va la bienveillante providence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienveillante providence de notre Seigneur qui désire pourvoir à tous nos besoins. Et mes amis, je vous laisse d'ailleurs le soin de calculer la probabilité pour que Pierre, après avoir jeté son hameçon dans l'eau, puisse voir s'accomplir du premier coup la réalisation de la prophétie que Jésus lui avait faite quelques instants auparavant. Et mathématiquement parlant, c'est juste impossible. Et pourtant, le Seigneur, dans sa toute-puissance, a pu accomplir cette chose. La providence divine, je la vois aussi se manifester quand Jésus arriva, vous savez, sur les hauteurs de Samarie, aux portes d'une ville appelée Sichar. Jésus, la Bible nous dit, s'assit au bord d'un puits. Quel puits ? Le puits de Jacob. Et il était vers les coups de midi. Et juste au moment, juste à ce moment précis, une femme samaritaine vint puiser de l'eau à ce même endroit. Certains pourraient dire le hasard. Mais là aussi, c'est aussi la providence de Dieu. Ce jour-là, Jésus a voulu pourvoir aux besoins du cœur de cette femme samaritaine. Car il faut aussi le préciser, le Seigneur désire pourvoir providentiellement à nos besoins, oui, d'ordre physique, mais aussi à nos besoins d'ordre émotionnel et même spirituel. Mieux encore, le désir de Dieu, nous dit la Bible, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ils soient sauvés, bien sûr, de la perdition et parviennent aussi à la connaissance de la vérité. Et pour ce faire, Dieu a pourvu un bien à un sauveur. Et quel sauveur ? Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre, dans une chair semblable à la nôtre. La Bible nous dit qu'il a fait du bien autour de lui. Il a guéri les malades et même ressuscité les morts. Mais au-delà de tout cela, Jésus vint sur terre pour donner sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés, pour le pardon de nos péchés. Pierre, en parlant de Jésus, a dit à ses compatriotes juifs, à un moment bien précis, c'était le jour de la fête de la Pentecôte, après l'effusion du Saint-Esprit dans cette fameuse chambre haute, et toute une foule de juifs venant d'un peu partout était rassemblée et remplie du Saint-Esprit. Pierre a pu exprimer un bien merveilleux discours. Et il dit, entre autres, dans, on peut le lire dans Actes chapitre 2, du verset 23 au verset 24. Actes 2, versets 23 et 24. Je vais vous lire ce passage dans la version Bible français courant. « Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer sur une croix par des infidèles. Mais Dieu l'a ressuscité. Il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Et en effet, après avoir accompli le plan que Dieu avait formé à l'avance pour lui, à savoir de donner sa vie en rançon pour le pardon de nos péchés, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, est revenu à la vie. C'est ce que nous venons de lire. Aussi, et je m'adresse à peut-être une personne qui a besoin bien d'être libre du péché, qui a besoin bien d'être réconcilié avec Dieu, et qui désire quelque part être un enfant de Dieu à part entière. Eh bien, mon ami, il te faut comprendre ce que Jésus a fait pour toi à la croix. En effet, à la croix, Jésus a offert sa vie pour que tu sois pardonné de tes péchés, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois justifié, pour que tu sois aussi également réconcilié avec Dieu, pour que également tu hérites de la vie véritable et abondante, qui d'ailleurs va perdurer éternellement dans le paradis que Dieu a préparé pour ceux qui craignent son nom. Mes amis, s'il y a bien une chose pour laquelle la providence divine se manifeste à plein régime, excusez-moi l'expression, eh bien c'est bel et bien pour chercher l'homme pécheur. Et là aussi, eh bien, les témoignages sont nombreux. Rappelez-vous cette histoire que je vous ai déjà bien partagée, cet homme qui était scaphandrier de métier et qui à un moment donné, alors qu'il était en train de travailler au fond de la mer, trouvé là un prospectus qui traitait, en tout cas qui parlait de Dieu. Et ça a été pour lui le début d'une histoire d'amour avec Dieu. Cet homme s'est converti à partir de ce moment-là. Ou cette autre histoire de cet homme qui se disait athée, mais qui pourtant était rempli de questionnements sur l'existence de Dieu. Il avait même dit à Dieu à plusieurs reprises de lui donner une preuve de son existence. Eh bien, un jour, alors qu'il était tout près d'une voie ferrée et qu'un train passait juste à ce moment-là, l'histoire raconte qu'un voyageur de ce même train jeta, on ne sait pas trop pourquoi, une Bible par la fenêtre de son wagon. Sauf que cette Bible atterrit directement sur la tête de notre ami qui se disait athée. Et ce dernier comprit par ce fait insolite que Dieu avait répondu à sa prière. Il se mit personnellement à lire la Bible et c'est alors que Dieu toucha son cœur Et par la suite, il se convertit à Jésus-Christ. Des exemples, des témoignages comme ça, je pourrais vous en donner, eh bien, donc à l'appel. Parce que Dieu, plus que jamais, déploie sa providence divine pour rencontrer les hommes, eh bien, sur le chemin de leur vie, afin que tous, un maximum, eh bien, puissent recevoir le merveilleux salut que Dieu offre à toute l'humanité. Alors voilà une première façon que le Seigneur manifeste sa providence divine à l'égard de ses enfants. La providence de Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui lui appartiennent. Et je précise, besoins de tout ordre, physique, émotionnel et spirituel. Je voudrais voir une deuxième autre façon pour Dieu de manifester sa providence à l'égard de ses enfants. La providence de Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et ce passage, cette déclaration, je le tire de ce verset suivant, Romains chapitre 8, verset 28, que vous connaissez certainement. Il nous est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et là encore, mes amis, les exemples bibliques ne manquent pas. Et bien sûr, nous pensons par exemple à notre ami Joseph. Regardez, eh bien, toutes les péripéties que Joseph, fils de Jacob, a dû traverser, endurer, avant qu'il ne voie s'accomplir tout ce que Dieu lui avait révélé en songe depuis sa tendre enfance, alors qu'il était encore adolescent. Joseph a été vendu par ses propres frères. Puis vous le savez, par la suite, il a été vendu à un officier égyptien appelé Potiphar. Puis ensuite, il a été emprisonné dans la prison du roi pour une faute qu'il n'avait pas commise. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vous encourage à relire dans le livre de la Genèse toute cette histoire. Mais Dieu, et c'est ça qui est important, Dieu était avec lui. Dieu était avec Joseph. Et mieux encore, Dieu le releva. Et vous le savez, et ça c'est la fin de l'histoire qui finit très bien, Joseph devint, par un concours de circonstances qui ont été quelque part orchestrées par Dieu lui-même, eh bien, Joseph devint le premier ministre de toute l'Égypte. Finalement, tout ce que Joseph a traversé a été comme jalonné par la providence de Dieu. Une providence divine qui a fait en sorte que finalement, toutes les épreuves que Joseph a endurées puissent quelque part le conduire inexorablement vers ce à quoi Dieu le destinait dès le début, à savoir être premier ministre, c'est vrai, sur tout le royaume égyptien, mais aussi d'être une source de bénédiction pour tout le reste de sa famille. Voici, mes amis, ce que peut faire la merveilleuse providence de Dieu. Et vous le savez, par la suite, Dieu a permis que Joseph retrouve ses frères et surtout, au grand surtout, eh bien, leur pardonne de leurs mauvaises actions à son égard. Et il y a ce merveilleux verset dans Genèse chapitre 50, verset 20, qui eh bien, nous montre ce que Joseph a dit entre autres à ses frères. Et il va leur dire, vous aviez médité de me faire du mal. Et Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyons bien clairs, par cette parole, Joseph n'était pas en train de minimiser la gravité de la faute de ses frères, non. Joseph était par contre en train de leur expliquer que Dieu, par sa sagesse et même sa prescience, s'est servi, c'est vrai, de leurs mauvaises actions afin de les utiliser pour l'accomplissement de ses desseins conçu à l'avance. Et cette prouesse, mes amis, seule la providence divine est en mesure de l'accomplir. Oui, la providence de Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Personnellement, je suis actuellement en train de relire la vie de David. Vous savez, l'homme selon le cœur de Dieu. Et croyez-moi, je suis émerveillé de voir le nombre de fois que Dieu a gardé et secouru David de ses divers et nombreux ennemis. Je dis divers et nombreux ennemis parce que les ennemis de David, eh bien, c'était déjà les peuples étrangers, les nations qui avaient à l'époque occupé toute la Palestine, tout Canaan, entre autres les Philistins. Mais je dis divers ennemis eh bien, je pense aussi également eh bien, à son propre roi, c'est-à-dire Saül, qui à un moment donné n'a eu de cesse de le poursuivre, sans parler eh bien, de la rébellion de son, du fils de David, c'est-à-dire Absalom, aidé du premier conseiller de David à l'époque, Achitophel, qui s'est associé avec Absalom. Toute cette histoire aussi, vous pouvez la relire dans le livre de Samuel. Je constate que souvent le secours de Dieu envers David fut providentiel, quelquefois in extremis. Juste un exemple qui a interpellé eh bien, mon cœur dernièrement, c'est ce passage, cette histoire dans 1 Samuel chapitre 23, du verset 25 à 29, alors que David était en train de fuir eh bien, la démence du roi Saül, qui, ce dernier, voulait tuer David. Regardez ce qu'il est dit. 1 Samuel, chapitre 23, versets 25 à 29. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Il y avait un acharnement. Saül voulait à tout prix eh bien, anéantir David, car il sentait quelque part eh bien, que David était le prochain roi à sa place. Saül partit donc avec ses gens à la recherche de David et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Ils étaient presque eh bien, à l'entourer quelque part et finalement l'anéantir. Et regardez le verset 27 qui est providentiel. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « À toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Sela à Maclékot, rocher, ce qui veut dire rocher des séparations. Dieu a empêché le roi Saül d'atteindre David en forçant eh bien, Saül à rebrousser chemin afin de faire face aux Philistins qui avait fait une invasion dans le royaume d'Israël. Pourtant, Saül était à deux doigts de tuer David. Mais Dieu était au contrôle. Le Dieu providentiel était au contrôle. Et de même, il y a bien sûr un enseignement pour nous, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ. Parce que nous aussi, nous avons choisi Dieu comme étant le rocher de notre salut. Dieu ne permettra pas que nos ennemis nous atteignent. Nous pouvons avoir des adversités, nous pouvons avoir des luttes et des combats, nous pouvons avoir des épreuves et des ennemis en quantité, en grand nombre en face de nous. Dieu sera toujours pour nous ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et comme nous l'avons lu, Dieu sera pour nous le rocher des séparations. Ou devrais-je dire, Dieu sera pour nous le rocher providentiel qui se placera toujours en travers de nos ennemis afin de nous protéger. Mes amis, rien ni personne ne peut contrecarrer les desseins bienveillants de Dieu à notre égard. Même pas le diable, même pas ses démons. C'est pour ça qu'il est dit autre part dans Ésaïe chapitre 54 et le verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est une promesse que nous avons besoin de saisir. Dieu utilise, mes amis, même ceux qui s'opposent à ses desseins pour sa propre gloire. Et l'exemple, bien sûr, qui me vient à l'esprit, c'est celui eh bien, de Judas. Vous savez, Jésus a choisi Judas, l'Iscariote, en tant que disciple, tout en sachant à l'avance que ce dernier allait le livrer entre les mains des pécheurs. Et on a tellement de versets qui ne peuvent que nous le prouver. Jésus, par exemple, a dit à une foule de disciples qui le suivaient, dans Jean chapitre 6, verset 64, Jésus va dire « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Et il est précisé « Car Jésus savait dès le commencement. » Vous entendez ? Dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point, et il est précisé, et qui étaient celui qui le livrerait. Et là encore, néanmoins, je veux faire une précision, apporter une précision. En aucun cas, Jésus a poussé Judas à le trahir. Mais c'est ce dernier, c'est-à-dire Judas, qui hélas a choisi la voie du mal. Et Dieu, dans sa préscience, a utilisé les mauvais choix de David, de Judas, excusez-moi, pour accomplir ses desseins. Voilà ce qu'est capable la providence divine de notre Dieu. La providence de Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Oui, mes frères, le Dieu de providence, qui est devenu notre Père céleste, fera ainsi concourir toutes choses à notre bien, si et seulement si nous nous attachons à lui. Et si et seulement si nous lui faisons pleinement confiance. David a fait confiance à Dieu. Joseph a fait confiance à Dieu. Et il est important pour nous de lui faire pleinement confiance. Il combat pour nous. Il est là devant nous, il nous ouvre la marche. La Bible nous dit aussi, il ferme notre marche, il nous accompagne. Mieux encore, il demeure au-dedans de nos vies, puisqu'il a fait de notre corps son Saint-Temple. Il ne nous abandonnera point. Et sa providence sera nous accompagner et nous donner à être victorieux du début jusqu'à la fin. Et je voudrais juste terminer en rappelant donc ces deux points concernant la providence divine. Premièrement, la providence divine qui est au contrôle de toutes choses, nous assure tous les soins et attentions dont nous avons besoin pour vivre une vie abondante et victorieuse en Jésus-Christ. Et puis le deuxième point que nous avons vu ensemble, c'est que la providence de Dieu nous enseigne aussi que quoi qu'il arrive de bien ou de mal dans notre vie, Dieu, notre Père céleste, fera en sorte que toute chose concourt à notre plein épanouissement, concourt à notre bien, à notre bonheur. Alors, mes frères et mes sœurs, que me reste-t-il à dire si ce n'est que nous puissions continuer à faire pleinement confiance à Dieu, notre Père céleste, à Dieu, notre rocher providentiel. C'est lui le rocher des séparations, c'est lui qui se propose de faire face à nos ennemis et les empêcher de pouvoir nous atteindre. Quel que soit ce que nous sommes en train de traverser, rappelons-nous que Dieu est avec nous. Et puis un dernier verset avant de terminer, Ésaïe chapitre 26 et le verset 4, encore cette exhortation qui sort de la bouche du prophète Ésaïe. « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, » et il précise, « l'Éternel est le rocher des siècles. » Mon frère, ma sœur, repose-toi sur ce rocher, il est avec toi, il ne t'abandonnera point. Et bientôt, il viendra sur les nuées et viendra prendre son église qui se sera préparée. Et c'est ce que nous voulons. Alléluia, les uns et les autres, vivre ce retour glorieux du Seigneur et être fin prêt. Que Dieu nous bénisse les uns les autres. À bientôt. Au revoir.